Mais bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Écoutez, cette semaine, on est à notre deuxième exposé dans notre nouvelle série, l'Église contagieuse. Et c'est ça notre prière. Notre prière, c'est que comme Église, on soit contagieux, mais de quelque chose de bon, de l'Évangile, d'une bonne nouvelle. Les mauvaises nouvelles sont souvent plus contagieuses que les bonnes nouvelles. Ça attire l'attention, il y a quelque chose en nous qui aime le dramatique, les choses comme ça. Travaillons fort pour être contagieux d'une bonne nouvelle, celle de l'Évangile, Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et ça, c'est notre mandat à nous comme Église de porter cette bonne nouvelle-là. Écoutez, ce matin, on annonce nos couleurs. On donne nos couleurs par rapport à toute la question de l'Église web. Je pense qu'à travers la pandémie, on a fait la démonstration que comme Église, à l'Espoir, à l'Église évangélique baptiste de Sorel-Tracy, on était tout à fait ouvert à se servir des technologies pour servir l'Église. Et on est toujours heureux lorsqu'il y a des gens qui bénéficient de ce qu'on met en ligne. Donc, ce n'est pas qu'on est fermé aux technologies, au contraire, mais en même temps, l'Église sur le web, l'Église uniquement sur le web, non, c'est pas vraiment une option. Parce qu'on pense que ce n'est pas ça que le Seigneur désire. Le Seigneur désire vraiment voir l'Église se réunir. Et à travers les années, il m'est arrivé des fois de jaser, de rencontrer des gens, parler avec eux, puis candidement, la personne va me dire « Oh, je suis chrétien, tout ça, mais je vais pas dans aucune église, je ne suis pas attaché à aucune assemblée, je ne suis pas membre d'une église. Moi, je suis ça sur le web, j'écoute des prédicateurs, il y a de la bonne louange sur le web, j'ai du bon temps, je croise des chrétiens, j'ai des amis, tout ça, mais je ne fais pas vraiment partie d'une église. » Et honnêtement, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer des gens comme ça. Et non, c'est pas ça l'Église. C'est pas ça l'Église locale. C'est pas comme ça que le Seigneur le voit. On peut se servir définitivement des technologies pour s'assister, pour s'aider. Il y a des gens qui sont pris par le travail dans des régions où il n'y a pas d'église locale. Ils sont à l'extérieur pour un temps. Il y a des gens qui sont retenus par la maladie, des problèmes de santé. Il pourrait y avoir une pandémie mondiale, qui sait. Bien, ça peut être utile. Ça peut vraiment nous aider. Ça peut venir appuyer la vie de l'Église. Mais clairement, ce qui plaît à Christ, c'est de voir son Église qui est réunie ensemble, qui est en train de le célébrer, qui est en train de le chanter, qui est en train de s'aimer les uns les autres, être là, prendre soin les uns des autres. Puis vraiment être ensemble. Puis honnêtement, j'aime mon Église, j'aime être avec les gens, j'aime voir les personnes, j'aime être présent avec eux, j'aime voir vos visages, j'aime entendre vos noms, connaître des personnes, être attaché à une assemblée. Et ça me manque cette semaine. Tantôt, je vais vous partager ça un peu, mais ça faisait des semaines, je pense, que je ne m'étais pas assis à proximité de Luigi. Mon collègue, mon compagnon de travail, mon frère, mon ami, on s'est juste assis ensemble à proximité dans un parc. Puis honnêtement, je pense que je serais resté là pendant une heure, juste avec Luigi à côté de moi. J'étais heureux juste qu'on soit là ensemble. Puis c'est pas qu'on n'est pas en contact, on est toujours en contact avec toutes les technologies. On s'en sert pour travailler avec le télétravail, évidemment. Mais ça faisait du bien, ça faisait du bien. Et donc, ma prière, notre prière, c'est que ce matin, ce ne soit pas simplement des choses intellectuelles qui viennent se placer dans ta tête. On va faire un peu de théologie ce matin, on va aller dans des vérités bibliques fondamentales, on va même aller dans des doctrines, on va faire un peu d'anthropologie, comment est-ce que Dieu définit l'être humain, on va faire un peu de christologie, qui est Christ, on va même faire un peu d'ecclésiologie, donc vous voyez, on va vraiment dans de la théologie. Mais ma prière, c'est pas que tu sois convaincu intellectuellement puis que tu dises « OK, je pense que si, il va falloir que je me fasse une idée. » Non, c'est que dans ton cœur, dans ton âme, l'Esprit-Saint vienne te convaincre que ce qui plaît à Christ, c'est une église locale où les chrétiens se connaissent, se côtoient, prennent soin les uns des autres parce qu'à quelque part, l'Église est le corps de Christ puis on voit le corps de Christ en action. Et donc, c'est ma prière, c'est que Dieu vienne parler à ton cœur et qu'il y ait une espèce de langueur, une espèce d'attente de se retrouver ensemble, de connecter ensemble, de prendre soin ensemble, pas seulement à travers le web, mais dans une vraie église locale. Et peut-être que tu n'as pas d'église locale, peut-être que tu as découvert l'église ou tu as redécouvert l'église à travers la pandémie, puis tu suis des assemblées comme ça, peut-être que tu suis ici l'église de l'espoir par le web. Bien, Dieu t'appelle, si tu es chrétien, à trouver une église la plus locale possible, le plus près de toi, qui enseigne les Écritures fidèlement et à te joindre à cette église-là. Ma prière, c'est que Dieu te convainque de ça ce matin. On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture des Écritures. Éternel notre Dieu, on vient dans ta présence parce que toi, tu es présent partout. Seigneur, ton esprit est avec nous où que nous soyons. Et tu peux faire une œuvre puissante dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Je te demande donc, Seigneur, de venir parler à nos cœurs de l'Église. Comment est-ce que tu vois l'Église, Seigneur Jésus? C'est ton corps, c'est ton assemblée, c'est ton épouse, comme on l'a dit la semaine dernière. Viens nous parler de cette Église, Seigneur. Viens nous convaincre par l'œuvre de ton Esprit, afin qu'on puisse vraiment comprendre comment tu vois l'être humain. Comment tu vois ta propre incarnation alors que tu es devenu un être humain? Et comment tu vois le corps de Christ, l'Église réunie, Seigneur? C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
Les versets 12 à 27 dans la nouvelle édition de Genève. 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
La semaine dernière, on a utilisé une image. En fait, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs images pour parler de l'Église. Et la semaine dernière, on s'est concentré sur une image, celle du couple. Christ étant l'époux, l'Église étant l'épouse. Personnellement, c'est l'image qui me touche le plus. Esther et moi, hier, on a célébré notre 28e anniversaire de mariage. On est allé se promener à Montréal dans le Myland, puis comme des jeunes mariés, on se promenait main dans la main. Puis honnêtement, on a passé vraiment une belle journée. C'était très étrange. Tous les restaurants, il faut juste aller en take-out. Fait qu'on s'est promené, puis on s'est promené d'un take-out à l'autre. Mais on a eu du bon temps ensemble. Puis c'est une image très, très forte qui parle de comment est-ce que Christ aime l'Église. Il l'aime comme un époux aime son épouse. Puis il y a vraiment un amour passionnel qui est là. Maintenant, une autre image qu'on trouve qui est très, très forte, c'est celle du corps. Et à quelque part, dans cette épreuve-là que la terre vit et que l'Église de Christ vit aussi, bien, on devrait sentir un peu comme s'il nous manquait un morceau de nous, un peu comme si on avait été amputé par la distance qu'il y a. Puis comme je le mentionnais dans l'introduction, je veux dire, les technologies sont super utiles, c'est pertinent, on aime ça, on s'en sert, j'aime me servir des technologies, mais... Mais c'est drôle, toute ma compréhension de l'idée d'incarnation, qui est très, très forte dans la Bible, on va en parler beaucoup ce matin, toute cette idée-là d'incarnation est devenue comme très présente dans mon esprit à travers la pandémie où tout était un peu désincarné parce qu'on fait tout à travers le web, on fait tout à distance. Et vous l'avez certainement vécu, j'ai senti à quel point même la communication entre deux êtres humains à travers un écran n'est pas le même que lorsqu'on est présent en personne. Je me sens un peu amputé de moi-même du fait que j'essaie de vivre l'Église, être en communion avec l'Église, mais à distance. Et de ne pas être à proximité, de ne pas pouvoir vous toucher, de ne pas pouvoir vous voir. Et donc, l'appel de Christ, c'est à ce que son Église se réunisse. Voici comment je résume l'exposé de ce matin. L'Église locale qui se réunit manifeste la présence réelle de Christ. Il est au milieu de l'Église qui est son corps. Je répète ça, l'Église locale qui se réunit manifeste la présence réelle de Christ. Il est au milieu de l'Église qui est son corps. Et ce matin, on va faire un petit peu de théologie. Là. Si vous êtes familier avec ce langage-là, on parle de théologie systématique, différentes grandes vérités dans la Bible. Ces vérités-là, on les appelle des doctrines, donc ce sont des vérités. Et je commence avec un peu d'anthropologie. C'est quoi l'être humain selon la Bible? Vous allez voir le lien après. Stick with me, suivez-moi là. Vous allez voir, il y a vraiment un lien clair. Donc, l'importance éternelle de la présence physique. Puis tantôt, j'ai fait allusion à ce moment que j'ai vécu avec Luigi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé vraiment du temps ensemble. On est allé dans un parc, on a fait ça en toute légalité, ne vous inquiétez pas. Puis on est allé dans un parc, puis on marchait ensemble, puis on s'est assis dans un parc sur un banc avec, je ne sais pas là, si on avait 6 pieds ou 7 pieds ou 5 pieds, mais on avait une belle distance. Puis on était là, puis pour de vrai, là, j'étais juste bien d'être près de lui. Puis on a jasé de tout puis de rien, on a pris des nouvelles. On fait ça toutes les semaines, on se connecte via web, puis on se donne des nouvelles, comment ça va, la famille, comment vous vivez ça, les enfants, comment ça va. On le fait toutes les semaines, mais ce n'était pas la même chose. Honnêtement, là, je pense que c'est la distance qui a créé ça. J'aurais dit à Luigi, « Hey, on reste-tu 5 minutes à regarder les oiseaux puis les feuilles? » Puis j'aurais été heureux comme aller prendre une marche sur la plage avec mon épouse. La réalité, c'est que cette présence-là physique me manquait. Et ça, c'est normal. L'être humain a été créé avec un corps, puis c'est pas simplement une enveloppe à quelque chose de plus noble. Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés avec un corps. On lit dans Genèse 2, à la création de l'humanité, Genèse 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre. Forma l'homme, je m'excuse, de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » On a donc un corps et au moment où cet être-là est créé, il y a une âme qui est là avec ce corps, puis il nous dit « il devint un être vivant ». Donc, dès la création, nous ne sommes pas créés esprits comme certaines religions qui viennent d'Asie vont le voir un peu comme un esprit qui est prisonnier d'un corps. Et je suis conscient que des fois, c'est notre expérience. On vit dans un monde qui a été littéralement maudit par Dieu. On vit après la chute. Nos corps sont décadents. La réalité, c'est que je le vois chaque année. Je suis de plus en plus en décadence à quelque part. Je vieillis. La peau s'amincit, les cheveux tombent, je grisonne. C'est ça. J'ai beau travailler fort pour essayer d'avoir la forme de ma jeunesse. Oublie ça. Et donc, on peut avoir le sentiment qu'on est comme... Je pense que je suis un esprit prisonnier d'un corps. C'est pas juste, c'est pas vrai. C'est faux. C'est qu'on est des êtres que Dieu a créés, corps, âme et esprit, un seul être, dans un monde qui a été jugé par Dieu. Puis on est dans une attente. Mais je veux revenir à une bonne compréhension de ce que c'est l'être humain. Autrement, il y a des choses que je ne vivrai pas comme Dieu veut que je les vive. Je vais avoir tendance à nier la réalité ou une partie de la réalité en imaginant des choses sur l'être humain. Lorsque Dieu a créé l'être humain, homme et femme, il a créé corps, âme et esprit, un seul être. Écoutez, quand Adam était un peu seul, puis c'était correct d'avoir un chien, un chat, une girafe, un tigre, un lion, puis tout le kit, c'était comme probablement vraiment cool. Mais il y avait un petit peu de solitude, le monsieur. Fait que Dieu dit, je pense qu'il faut que je complète le portrait. Il crée Ève, d'accord? Dans Genèse 2, verset 23-25, on lit « Et l'homme dit, « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Voyez-vous, quand Adam a vu Ève apparaître, il n'a pas dit « Check the spirit! » Tu sais? Non! Il a dit « Wow! Check le pétard! » Littéralement, c'est ça qui s'est passé. Puis il dit « OK, elle vient de moi, elle est comme moi, physique. » Vous comprenez, il n'est pas tombé en amour avec un esprit. Il a regardé puis il a dit « Yes! » Littéralement, c'est ça qui s'est passé. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés comme ça. On n'est pas des esprits prisonniers d'un corps puis on va être libérés un jour de ce corps-là. L'être humain est physique tout autant qu'il est spirituel. Homme, femme, on est comme ça. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Et je sais que dans notre expérience de ce monde déchu, de ce monde brisé, on peut vivre toutes sortes de frustrations, de difficultés avec ce corps-là. Mais je vous avoue, les difficultés ne sont pas seulement physiques, sont spirituelles. Sont d'autant plus spirituelles. La réalité, c'est qu'on n'est pas juste détraqué physiquement. On est détraqué au complet. Puis la grâce de l'Évangile, c'est que progressivement, Dieu vient nous transformer, mais on languit après quelque chose. On ne languit pas après le moment où on va être délivré de notre corps. Peut-être que c'est ça que tu penses. Non, on languit après le moment où on va avoir un corps nouveau. Un corps nouveau pour l'éternité. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit au chapitre 15, verset 20, il dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices, donc le début, l'avant-goût de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Voyez-vous, la résurrection corporelle physique de Jésus est l'assurance de notre résurrection à venir. J'aime énormément la science-fiction. Je suis tombé très jeune dans du Isaac Asimov, puis je me suis mis à lire tout ça, puis j'aime le fantastique, j'aime la science-fiction, j'aime toutes ces choses-là. Maintenant, il y a un des courants qui vient avec ça, un grand, grand, grand classique maintenant de la science-fiction dans le cinéma, c'est La Matrice, évidemment. Puis dans La Matrice, on a une espèce d'image comme d'un monde surréel. Ce qui est intéressant dans Matrice, c'est que ce n'est pas nécessairement angélique. Tu te demandes si c'est l'enfer ou si c'est le ciel. Mais on a cette image hein, de millions et de millions de corps qui sont un peu comme dans le formol gardé artificiellement vivant, puis qui en réalité, c'est juste une enveloppe. Ils vivent dans la matrice, puis ils sont connectés. Ça fait penser un peu à l'Oculus, ceux qui ont essayé l'Oculus. C'est assez flyé comme effet. Et je pense et je sais que pour plusieurs jeunes, il y a aujourd'hui une espèce de rêve que, écoute, peut-être qu'on va vivre éternellement plongé dans le formol, puis en réalité, on ne vivra plus vraiment dans notre corps, ça va juste servir à garder comme notre esprit en vie, mais on va vivre virtuellement. Voyez-vous, ça a peut-être l'air vraiment cool, mais si c'était une vision d'avenir, ça serait plus une vision quelconque de l'enfer que du ciel. Parce que dans l'éternité, j'aurais pas besoin qu'on plonge mon corps dans le formol puis que je vive dans un monde virtuel, comme si mon corps n'était plus capable de bien vivre ou de m'apporter un bonheur. Non, la promesse pour l'humanité que Dieu nous donne à travers les Écritures, c'est qu'on va être séparé de notre corps pour un temps. En mourant, je vais être séparé de mon corps pour un temps, mais dans l'éternité, au retour de Christ, je vais avoir un corps ressuscité et je vais vivre éternellement, physiquement. Je sais que ça a peut-être l'air un petit peu détaché de ce qu'on parle lorsqu'on parle de l'Église et tout ça, mais suivez-moi, c'est très, très concret, c'est très réel. La vision chrétienne de l'éternité, du bonheur éternel, ce n'est pas comme dans certaines religions asiatiques qui viennent d'Asie où on se dit, bien, un jour, on va être libéré puis on va devenir un esprit. Non, pour l'éternité, je suis un esprit, une âme vivante dans un corps. Et c'est ça l'être humain. Dans un corps glorifié, dans un corps où il n'y a plus de maladie, où il n'y a plus de souffrance. Mais cela fait partie de l'expérience humaine, de notre nature. Dieu nous a créés ainsi. Et ça doit faire partie de mon quotidien. Qu'est-ce que ça change dans le réel, au concret maintenant? C'est que je dois voir l'être humain comme un être éternellement, physiquement présent. Déjà dans cette terre, je veux jouir de la vie sur la terre à travers mon corps. Les chrétiens ne sont pas des êtres qui renient le corps toute leur vie. Non, on n'essaie pas de mortifier notre corps, de faire mourir notre corps. On essaie de faire mourir le péché en nous, qui est autant dans mes pensées qu'à travers des désirs que je peux avoir dans mon corps. Et donc, il y a des choses auxquelles je veux renoncer, mais c'est au péché que je veux renoncer. Je ne veux pas renoncer à aller me promener avec mon épouse, main dans la main, dans le Myland, puis goûter une petite crème glacée vietnamienne, parce que, oh, ça serait le péché, ça m'attache à la vie sur terre, fait que il faut que je m'abstienne de tous ces plaisirs-là. Pas du tout! Au contraire, moi, je me réveille le matin, là, puis j'ai besoin de me rappeler que cette machine-là fonctionne encore un petit peu. Fait qu'est-ce que je fais? Je fais du stretching. Littéralement, là, je m'étire. Ma Bible est là, mes choses sont là, puis je m'étire. Puis au fur et à mesure que je commence à sentir mon corps qui se réveille, c'est super agréable. Quand je vais prier, là, ça, c'est moi, là. Peut-être que toi, quand tu pries, tu t'assois, puis tu décolles à quelque part, puis tu oublies pendant un instant que tu as aussi un corps, puis tu arrives à... J'y arrive pas, moi. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais moi, dans mon cas, je vais le faire en marchant. Je suis tellement connecté que quand je me mets à marcher, j'ai plus de facilité à prier. Là, je vais faire un spoiler ce matin, OK, parce qu'un jour, ça va me rattraper, ils vont se mettre à sortir des vidéos. Fait que j'ai décidé ce matin qu'ils ne pourraient pas le sortir. Avant la prédication, là, l'équipe qui est ici avec moi, ils ont découvert qu'est-ce qui se passe avant que je prêche. D'habitude, ça se passe derrière, OK? Mais... Vous savez, prêcher, ce n'est pas tout à fait la même chose que m'asseoir sur le banc avec Luigi. Quand je suis assis sur le banc avec Luigi, je peux être comme super relax, les silences, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas faire la même chose lorsque je suis en train de prêcher. Je veux dire, vous allez comme tout partir, vous ne serez plus là. Qu'est-ce qui se passe avant que je prêche? Littéralement, c'est ça qui se passe. Là, tout le monde trouvait ça bien, bien bizarre. Mais pour le reste, je suis là, puis j'ai besoin de bouger. J'ai besoin de rentrer parce que je m'en vais prêcher, puis j'ai besoin de cette énergie-là. Littéralement, il rit, là, mais j'ai besoin de ça. Parce qu'à quelque part, mon corps est connecté avec ce que je vais donner. Ce que je vais vous donner dans la prédication, c'est attaché à ça aussi. Puis je ne peux pas détacher ça. Ça fait partie de cette réalité-là. Si je veux être vraiment avec vous, j'ai besoin à quelque part de sentir que je suis tout là. Profitez-en. C'est ça la vie sur terre. La vie sur terre, c'est que Dieu nous a donné ce corps-là, puis ça va être ça pour l'éternité, parce que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, on va vivre sur la terre avec un corps aussi. Ce que je veux, c'est renoncer au péché. Je ne veux pas renoncer à la vie sur terre. Ce n'est pas ça le christianisme. Dieu nous a créés avec un corps, puis ça fait partie de toute la beauté de l'humanité, de pouvoir s'asseoir ensemble, prendre un repas ensemble, s'accueillir, se prendre dans les bras les uns des autres, aller visiter quelqu'un à l'hôpital, puis prendre la main de cette personne-là avec douceur. Pendant que tous les contacts physiques qu'elle reçoit à l'hôpital, c'est des contacts de soins. Mais moi, je vais visiter cette personne-là. Toi, tu vas visiter un frère, une sœur de l'Église. Puis tout ce que tu fais, c'est que tu lui prends la main doucement. Peut-être que tu ne l'as jamais fait, tu sais. Je me souviens tellement de moments où je vais visiter quelqu'un à l'hôpital. Je veux dire, j'ai jamais, tu sais, je prends la main de mon épouse avec une tendresse que tu ne peux pas t'attendre à ça le dimanche matin. Mais si je m'en vais te visiter à l'hôpital, ça se peut que je te prenne la main avec une tendresse qui est quasiment une tendresse amoureuse. Parce qu'à quelque part, je suis en train de te dire, regarde comment je suis là, là. Je suis ici avec toi. Puis au moment où on fait ça, au moment où on se prend la main, il y a quelque chose qui se passe, qui parle puissamment à notre être. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés comme ça. Puis c'est normal qu'être séparé comme ça fait qu'on se sent un peu amputé. Il nous manque quelque chose. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de se retrouver. Donc, on a parlé un petit peu d'anthropologie. C'est quoi l'être humain? On va parler un petit peu de Christ, de Jésus-Christ, de Christologie. Beaucoup de théologiens pensent que le plus grand miracle qui nous est présenté dans la Bible, et moi je suis d'accord avec ça, c'est pas la création de l'univers. C'est pas la résurrection de Jésus-Christ. Beaucoup de théologiens pensent que le plus grand miracle qui nous est présenté dans la Bible, c'est l'incarnation de Christ. C'est le fait que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, soit devenu un être humain. Et donc, je vous lis un passage, d'accord? Pour parler de ce qui, d'après moi, est le plus grand miracle dans la Bible. l'incarnation. On se promène vraiment dans plein de passages ce matin. On va dans Jean 1, au verset 1. Plusieurs d'entre vous êtes très familiers avec ce passage-là. Jean 1, 1, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et au fur et à mesure qu'on avance dans les 14 versets qui suivent, on découvre que cette parole-là, c'est en fait Dieu le Fils qui va venir sur la terre. Mais donc, au départ, avant d'être Jésus de Nazareth, bien le Fils est esprit. Il est esprit, il est auprès de son Père qui est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'a pas besoin d'un corps pour vivre, et nous, on a besoin de ce corps-là, mais lui n'a pas besoin de ça. Puis on lit au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » La parole, Dieu le Fils, a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc on sait c'est qui? C'est le Fils unique qui était auprès du Père, qui était seulement un esprit, mais qui est devenu un être humain. On vit dans un monde où on est confronté avec le péché. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette semaine, on est dedans. Il y a des manifestations, il y a des gens qui crient au racisme, il y a eu de la violence, il y a eu un meurtre. Donc, on est là puis on voit le péché. Quelqu'un qui dit « le péché, ça n'existe pas », ça fait longtemps que tu n'as pas allumé la télé, mon ami. Puis, tu sais, tu peux écouter des séries sur Netflix qui racontent à peu près juste des histoires de péché aussi, soit dit en passant. Mais tu peux juste ouvrir les nouvelles puis juste suivre les nouvelles. Si tu crois que le péché n'existe pas, ben, cherche un nom, George Floyd, puis va regarder ce qui se passe, puis tu me diras que ça, c'est moralement neutre. C'est pas moralement neutre. Donc, on vit dans ce monde-là qui est brisé. Et on pourrait se dire, si Dieu existe, si Dieu veut libérer l'humanité du péché, des conséquences du péché, bien, lui qui est esprit, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'un jour va venir où il va nous libérer entièrement de toute cette vie terrestre-là. Puis il va nous amener dans sa présence, puis on va tous être des esprits, puis on va tous être libres de tout ce qu'on expérimente physiquement. C'est pas ça que le christianisme nous révèle. Dieu nous a tant aimés qu'il a quitté une nature unique d'esprit pour devenir vraiment un être humain. Il est devenu vraiment un homme. C'est fou là, comme vision de Dieu. Dieu est esprit. Puis on se dit, ben le bonheur, c'est peut-être d'être un esprit. Oui, mais il dit, non, il y a un bonheur dans l'humanité. Et je vais vous le prouver en devenant un être humain. Je vais venir vous rejoindre, je vais devenir vraiment un homme. Quand je dis que c'est le plus grand miracle qu'on voit dans la Bible, c'est aussi une des vérités bibliques les plus mystérieuses, les plus complexes. Quand les premiers disciples ont rencontré Jésus, puis là, ils ont commencé à le suivre, puis ils ont commencé à l'écouter, puis là, ils se sont dit, « OK, mais c'est qui ce gars-là? Il est pas normal, il dépasse tout le monde, il dépasse tous les prophètes, il enseigne avec une connaissance qu'on ne connaît pas, une sagesse, un amour, il fait des miracles, puis il était comme hors catégorie, puis ils essayaient de le cadrer avec, ils allaient voir les prophéties de l'Ancien Testament, c'est qui? Ou OK, on pense que c'est le Messie, mais exactement c'est qui? » Puis lui-même, Jésus se révélait, mais assez mystérieusement, il donnait des choses, il disait, « Bien, je ne suis pas Dieu le Père, ça c'est clair, mais... » Donc Jésus meurt sur la croix, Jésus ressuscite d'entre les morts, puis les chrétiens partent avec les textes. Puis pendant longtemps, les chrétiens ont toute la révélation, puis ils sont là, puis ils disent, « Comment on va définir exactement ça? » Donc, très tôt, les chrétiens ont dit, « OK, attends un peu, Jésus est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu le Fils qui est devenu un homme. » Mais en même temps, c'est tellement mystérieux comme doctrine, comme vérité, ça ne rentre pas dans notre compréhension que pendant longtemps, les théologiens se disaient, est-ce qu'on peut vraiment le formuler exactement comme ça? Comment on doit interpréter Jean 1, les versets 1 à 14? Et honnêtement, ça a pris jusqu'en 400 au Concile de Chalcédoine, on fait de la théologie ce matin, au Concile de Chalcédoine, où vraiment ils ont dit, OK, tout est clair pour nous. On parle vraiment de deux natures dans un seul être. Donc, un être qui est à la fois parfaitement divin, il n'a pas renoncé à sa divinité, mais en même temps qui est parfaitement humain, même plus parfaitement que nous, puisqu'il est sans péché, qui sont réunis dans un seul être, deux natures, divines et humaines, dans un seul être. Et depuis ce temps-là, on affirme clairement ça parce que les Écritures nous le révèlent, je dirais de manière mystérieuse. Il faut vraiment étudier les Écritures et dire, OK, il n'y a pas d'autres conclusions possibles. Il n'y a pas d'autres interprétations possibles quand on met toutes les Écritures ensemble. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, l'idée que Dieu, qui est esprit, a décidé de devenir un être humain. Il s'est allié éternellement à nous. L'image qui me venait à l'esprit cette semaine dans le contexte de tout ce qu'on voit à travers cette crise-là, toutes ces manifestations-là contre le racisme, je me disais, une belle image, une image puissante pour essayer d'illustrer ce que Christ a fait. Bien, si tu veux démontrer à un peuple que vraiment tu peux t'intégrer à ce peuple-là, un des plus grands symboles, c'est les mariages interraciaux. C'est puissant de voir ça. C'est beau de voir ça, de voir deux cultures qui vont se rencontrer tellement qu'ils vont être prêts à s'unir dans le mariage puis rester ensemble pour la vie. Maintenant, Dieu le Fils, dans un sens, j'espère que je ne me ferai pas lapider dans ma théologie, là, mais Dieu le Fils, dans un sens, est venu faire ce mariage-là interracial. Non seulement il est venu vers son épouse qui est l'Église, mais il est devenu un être humain. Il s'est allié à nous. Dieu, le Créateur, a fait une alliance tellement puissante avec sa créature qu'il est devenu sa créature. Il est devenu un être humain. Alors, dans ma manière de comprendre qui est Jésus, c'est quelqu'un qui est physique comme moi. C'est quelqu'un que je vais pouvoir toucher. Je vais pouvoir le rencontrer. Je vais manger avec lui. Je vais être dans sa présence physique. Dieu ne sera plus jamais seulement invisible, seulement esprit. Le Père est encore esprit. Le Saint-Esprit est encore esprit. Mais le Fils va toujours être un homme. Pour l'éternité, il va être un homme. On va être dans sa présence physique avec lui. Il va être un être humain. Il comprend ce que je vis. Il comprend les joies que j'ai d'être un être humain, les sensations que je vis, parce qu'il est entièrement un être humain, corporellement, physiquement. Et donc, ce plus grand miracle-là de l'incarnation a permis, par cette alliance-là que Dieu fait avec les hommes, de poser ensuite de ça le plus grand geste d'amour. Puisqu'il a adopté une vie humaine, il pouvait aller ensuite mourir sur la croix de sa vie humaine, donner cette vie humaine-là qu'il avait entièrement, mais avec toute l'angoisse d'un homme qui s'en va devant la mort, d'un homme qui s'en va devant une mort qui est plus grande encore même que la mort humaine, mais celle d'être fait péché à notre place. Mais Christ a vraiment pu donner sa vie humaine, mourir sur la croix, parce qu'il était vraiment un homme. Et il a vraiment souffert physiquement. Il a vraiment été mis à mort. Puis ensuite, il est ressuscité d'entre les morts. Afin qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Qu'on puisse entrer dans une réconciliation, une communion avec Dieu et une communion avec lui. Et il est ressuscité d'entre les morts afin qu'un jour, nous aussi, on puisse ressusciter d'entre les morts et retrouver un corps physique. On lit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 14. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Dieu le Fils pouvait mourir parce qu'il était vraiment un homme, et donc il est vraiment mort sur la croix, il est vraiment ressuscité d'entre les morts, mais puisqu'il est vraiment mort sur la croix, il est mort afin que nous, on meure à nous-mêmes et qu'on vive pour lui en retour. » Parce qu'il a vraiment donné sa vie pour nous. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On aurait pu imaginer que le bonheur éternel de la part de Dieu, ce serait de libérer toute l'humanité de sa vie physique, puis de faire de nous des esprits qui vont rejoindre un esprit. Certaines religions enseignent ça. C'est une mauvaise compréhension de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est la création. Dieu nous a créés, êtres humains, non pas un esprit prisonnier d'une enveloppe, mais vraiment âme, esprit et corps. Et c'est ça, l'être humain. Puis pour l'éternité, on va encore être des êtres humains avec un corps, mais en communion avec le Fils de Dieu qui est maintenant un être humain avec un corps pour l'éternité. Et donc, Dieu est en train de nous dire que ce côté-là physique, c'est même pas quelque chose de temporaire. C'est même pas quelque chose qu'on pourrait comme dépasser, sublimer. On va tous rentrer dans une vie virtuelle ensemble, on va quitter ces corps-là, on va vivre juste comme des esprits, puis on va être bien derrière nos écrans à connecter ensemble via le web. C'est pas ça l'Église normale. L'Église normale, c'est l'Église qui assume son humanité entièrement. C'est vraiment intéressant parce qu'à quelque part, la pandémie nous a permis de tester un peu la limite du virtuel. Puis je sais que ça va continuer à évoluer. Puis je sais qu'à quelque part, même à un moment donné, on va peut-être pouvoir brancher des ordinateurs directement sur notre cerveau puis vivre des sensations dans notre cerveau comme si c'était entièrement dans notre corps. Mais ça va être un déni d'une réalité qui va demeurer pour l'éternité. Et lorsque Christ va revenir, on va avoir un corps glorifié, on va être réunis avec lui. Donc, lorsque Dieu crée l'humanité, il nous crée âme, esprit et corps. Une seule personne. Et ce qui est intéressant, j'arrive à ma troisième doctrine ce matin, l'ecclésiologie. Jésus-Christ, lorsqu'il crée son Église, il l'appelle son corps. C'est le corps de Christ, où il habite parmi nous par son Esprit Saint. L'Église locale, corps de Christ. C'est vraiment intéressant. Après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, quelques semaines plus tard, quelques temps plus tard, il est monté auprès du Père. Puis maintenant, il est auprès du Père physiquement présent. Il prie pour nous. Il prépare son retour bientôt. On l'a dit pendant la pandémie, on l'a dit au début, très bientôt, Jésus-Christ va revenir et on va être réunis avec lui. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Christ est absolument absent de la terre? Il est parti, il n'est plus présent. Non, il est présent encore aujourd'hui par son esprit. Et son esprit habite chacun de ses enfants, chacun des chrétiens. Lorsque je deviens chrétien, l'esprit de Christ, l'Esprit Saint, vient habiter en moi. Mais tout ça, c'est très intangible. C'est très virtuel, tant et aussi longtemps que ça ne se traduit pas dans une église locale. Ça devient un témoignage faible parce que c'est celui de mon amour pour Christ, à moi seul dans mon coin. Regardez bien ce que Jésus dit, ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12, le passage que Stan nous a lu tout à l'heure. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Maintenant, écoutez bien la suite parce que ça parle de ce qu'on est en train d'assister, de ce qu'on est en train de voir actuellement à travers les manifestations. « Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » L'Église de Jésus-Christ, dans son expression locale, une Église locale, l'Église de l'Espoir à Longueuil, l'Église évangélique baptiste de Sorel-Tracy, des milliers d'églises locales partout sur la terre, lorsque nous nous réunissons ensemble, et quand par la grâce de Dieu, tu vois dans cette Église-là une diversité de générations, une diversité ethniques, qui entrent ensemble dans une véritable communion, qui joignent ensemble leurs chants de louange, qui exaltent Dieu, qui s'invitent les uns les autres à manger, qui vont se côtoyer ensemble. Tu es en train de voir de manière visible la puissance de l'Évangile à travers le corps de Christ, parce que c'est visiblement présent. On n'est pas simplement connecté sur le web, mais on est là, on prend soin les uns des autres. Et on a écrit un petit article cette semaine sur qu'on a publié dans les médias sociaux sur ce qui est en train de se passer. Puis honnêtement, ça te brise de l'intérieur quand tu regardes la scène de cette violence-là à laquelle on a tous assisté sur les médias sociaux. Et est-ce que l'Église a des questions à se poser? Est-ce que l'Église a à grandir aussi sur ces questions-là de racisme, ces questions-là raciales? Restez connectés, restez avec nous cette semaine. On va continuer cette réflexion-là. J'ai personnellement des amis pasteurs dans des églises aux États-Unis, dans de nombreuses églises. Puis c'est une des choses que je discute avec eux parce que eux-mêmes me disent tout le malaise. Je parle avec des pasteurs qui sont pasteurs dans une église afro-américaine, dans une ville où d'autres pasteurs sont dans une église vraiment blanche. Les deux ont la même théologie, les deux croient à la centralité de l'Évangile et ils ont toute la difficulté du monde à vraiment se réunir ensemble dans une église, à vraiment être ensemble. Puis ils parlent eux-mêmes de ce malaise-là, de cette, il y a quelque chose, il y a une blessure dans cette société-là qui est encore présente. Et moi, je ne pense pas qu'on ait des modèles parfaits. Je ne pense pas qu'on ait des exemples parfaits. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais oui, lorsque je parle de cette réalité-là avec eux et que je vois l'Église de l'espoir se réunir ensemble à travers des gens de toutes sortes d'origines nationales, ethniques, de toutes les couleurs, de toutes les langues d'origine, et qu'il y a vraiment une joie d'être ensemble, une joie à célébrer le Seigneur ensemble, une joie à chanter ensemble, j'ai vraiment la conviction de voir à quelque part le corps de Christ réuni ensemble dans sa diversité. Et donc, on a du chemin à faire et eux-mêmes doivent se remettre en question. J'en parle avec les pasteurs, ils sont déchirés de ça. Je pense qu'on a du chemin à faire nous aussi. Mais il n'en demeure pas moins que lorsque l'Église locale se réunit, il y a quelque chose qui nous parle puissamment du corps de Christ, où on est différents, mais on s'aime les uns les autres, on prend soin les uns des autres. Et actuellement, ce qu'on est en train de vivre à travers le web, ce n'est pas l'Église locale. Je ne sais pas si on vous l'a montré, j'ai vu que la caméra s'est installée, mais j'ai pensé ce matin qu'on allait vous montrer un petit peu ce que nous, on vit dimanche après dimanche, qui ne ressemble pas vraiment à la vraie vie, d'accord? Et j'ai pensé le faire intentionnellement, à quelque part, pour que ça graffigne un peu en dedans, qu'on se dise « ouais, ce n'est pas ça l'Église, hein? » L'Église, ce n'est pas chanter avec les Vincent à travers un écran, même si c'est extraordinaire d'être avec eux, puis on est béni, puis on est heureux de ça. Non, il y a quelque chose de triste dans ce qui est en train de se passer ici. Et donc, c'est pour ça qu'on vous encourage à vivre le corps de Christ déjà maintenant à travers des barbecues, des marches ensemble, aller prendre un cornet de crème glacée ensemble. On reste dans le cadre de ce qui est permis, mais bientôt, le corps va pouvoir être réuni. Cet après-midi, on va faire notre réunion de membres via web. On se débrouille, on se dépanne, on s'arrange. On va être heureux de se voir la bine. Les quelques secondes, on va pouvoir se voir tout le monde. Ça va faire du bien, mais c'est rien à côté du corps de Christ qui se réunit. Et donc, on languit après ça. J'ai rien contre les technologies. On n'a rien contre les technologies. Servons-nous des technologies au maximum pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais, écoutez les amis, n'en venons pas à dénaturer ce que c'est un être humain. N'en venons pas à dénaturer ce qu'est l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ et chacun des membres d'une église locale représente, manifeste la présence réelle de Jésus-Christ par son esprit qui habite en chacun de nous, mais concrètement par nos relations les uns avec les autres. Alors, je termine avec un passage dans 1 Jean 4, versets 20 et 21. Jean dit, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. » Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Moi, j'ai le goût de te dire, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il touche, avec qui est prêt? Et je sais que certaines personnes pourraient se camper dans une vision de l'Église qui est sur le web, puis vous dites, finalement, ça me convient tout ça. Il y a moins de blessures, il y a moins de souffrances. Je prends comme la meilleure partie de l'Église. Parce que je reçois des enseignements, je peux chanter de la louange, puis je ne suis pas exposé au graphing, aux offenses, aux difficultés. Si c'est ça ta vision de l'Église, il y a quelque chose de malsain dans tout ça. Et là, je vais prendre une image qui va en choquer plusieurs. Ça se peut que notre relation s'arrête ici, les amis, mais vous ferez marcher ça dans votre tête. Esther et moi, on n'a pas une relation virtuelle. Je ne suis pas en train de fréquenter une fille sur le web, ou pire encore, je ne suis pas en train de consommer le sexe féminin sur le web. Parce que ça ne serait pas une vraie relation. Ça ne serait pas une relation dans laquelle je me suis engagé à vivre ensemble. Esther et moi, ça fait 28 ans qu'on est mariés avec des rires, des larmes, des blessures, des demandes de pardon et une belle communion qui découle de tout ça. Parce qu'on s'est engagé dans une relation véritable. Et si à quelque part tu es confortable avec la version web de l'Église, tu n'es pas en communion véritable avec l'Église. Et je vais plus loin que ça. Il y a une très grande partie, j'oserais dire, la plus grande partie de l'œuvre que Christ veut faire en toi, que tu ne pourras pas vivre comme ça. Parce que cette vie-là, cette transformation-là, se vit lorsqu'on apprend à s'aimer malgré toutes nos faiblesses, malgré tous nos manquements, malgré toutes nos différences. Et donc, je languis, les amis, à être réunis avec vous en Église. Et c'est correct qu'on entre dans un champ de lamentation à quelque part où on a hâte d'être réunis ensemble parce que Dieu nous a créés avec un corps. On est des êtres physiques. Jésus-Christ est maintenant un être humain aussi. Il a un corps. Et actuellement, de manière très réelle, la plus belle manifestation de Jésus-Christ, c'est l'Église locale qui se réunit et qui apprend à s'aimer les uns les autres. Alors, languissons après ça, ça s'en vient très bientôt. Déjà, on peut commencer à aller prendre des marches ensemble. On peut se réunir, on peut aller manger un cornet ensemble. On peut se visiter les uns les autres. Et très bientôt, on va être ensemble ici, puis on va élever nos louanges à Dieu. Alors, on va continuer ensemble dans la louange. On va continuer à célébrer, mais à quelque part, il y a une attente de se retrouver ensemble, de prendre le repas du Seigneur ensemble, de célébrer des baptêmes ensemble, de se retrouver puis de se prendre les uns les autres dans les bras, ensemble, de s'accrocher. On va prier. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence. Tu es présent parmi nous. Toi, tu n'es pas limité. Ton esprit est vraiment en nous présent, Seigneur. Mais Seigneur, viens nous parler de cette véritable humanité. Viens nous parler de ce que c'est l'être humain, de ce que c'est l'Église locale, de ce que ce sont de vraies relations, Seigneur. Et donne-nous de languir à ce retour, à ces retrouvailles qu'on va vivre bientôt ensemble, dans quelques semaines. Commencer à se réunir en assemblée, à chanter des louanges, pas seulement avec les Vincent à travers le web, Seigneur, mais avec eux physiquement présents, avec toute l'équipe de louanges, avec toute l'Église qui se réunit, Seigneur. Donne-nous, Père, de languir à prendre ensemble le repas du Seigneur, ce repas physique ensemble, à voir des gens se faire physiquement baptiser dans l'eau, Seigneur, pour célébrer cet engagement envers toi, de se réunir ensemble dans des cours, dans aller prendre une marche ensemble, de se prendre les uns les autres dans les bras, Seigneur. Et Seigneur, que le corps de Christ soit visible aux hommes, pas simplement à travers un écran, mais à travers une vie de famille ensemble, une vie de corps. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie, Seigneur. Amen.